poser une question. Est-ce que ma vie aujourd'hui est une vie de religieux ou est-ce que c'est une vie remplie de foi? Comment je peux le savoir, à votre avis? Comment on peut savoir si on est religieux? Comment on peut savoir si c'est vraiment la foi qui est en moi? Moi, je connais la réponse, mais vous, est-ce que vous avez la réponse? Et quand je vais vous donner la réponse, c'est, vous allez dire, ben oui, parce qu'on est à un moment donné, moi je suis tombé dans le panneau au tout début que j'étais converti. C'est en fin de compte, lorsque l'on a des épreuves, c'est le moyen que le Seigneur utilise. Je dis bien le Seigneur. Parce que beaucoup disent, c'est le diable, je suis attaqué par le diable. C'est faux. Et on va le voir. Et en fin de compte, beaucoup, beaucoup s'effondrent. Et ils s'effondrent pourquoi? Par manque de foi. Et c'est ce que je veux voir un peu avec vous, ça va être assez long, voir avec vous ce matin, c'est une vie de victoire. Comment avoir une vie de victoire? On va prendre deux textes. Le premier, on rentre carrément dans le sujet. Donc 2 Chroniques, chapitre 13, verset 18. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps, et les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Le deuxième, c'est en Ésaïe 41, les versets 10 à 13. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. C'est magnifique quand on lit ça. C'est magnifique de comprendre, bien sûr ici c'est Dieu s'adresse à Israël. Il est en train de lui dire, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Même s'ils ont été exilés à cause du péché. Même s'ils ont été exilés à cause de leur incrédulité. L'Éternel leur dit, je ne t'abandonnerai pas. Ils ne seront jamais rejetés par Dieu. L'alliance avec Abraham a été inconditionnelle. Il n'y a eu aucune condition. Tu es mon peuple. Il a dit à Abraham, tu auras une postérité. Et aujourd'hui, on est la postérité d'Abraham. Est-ce qu'on en a conscience? Donc les versets que je viens de lire, ces versets sont pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors pourquoi on panique? Pourquoi on panique quand il se passe des choses difficiles dans nos vies? En Ésaïe 43, verset 3, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. » L'Éternel ferait n'importe quoi pour chacun d'entre nous. Et parfois dans nos vies, on constate des défaites. Là où il devrait y avoir la victoire, il y a la défaite. Et ça ne vient pas de Dieu. Quand vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, pourquoi il a souffert? Parce qu'il a désobéi. Constamment, il a désobéi. L'Éternel les a toujours aidés, il les a fortifiés, il est venu à leur secours, et pourtant, le peuple a désobéi. On vient de voir, on vient faire le plein de bonnes choses. Et chacun d'entre nous aujourd'hui, nous formons l'Église de Dieu. Vous savez, cette fameuse Église qui va être enlevée à la fin des temps, chacun d'entre nous, nous formons cette Église. Nous en sommes les briques individuellement. Nous en sommes les briques. Et c'est ensemble qu'on construit l'Église de Christ. Ce n'est pas individuellement, c'est ensemble. On est responsable chacun des uns des autres. On doit veiller chacun les uns sur les autres. On a une responsabilité. Et si une brique est mal constituée, si elle est mal faite, si elle est mal formée, il arrive une chose, c'est que le mur ne peut pas être édifié. Mais il arrive aussi, c'est que celui qui construit le mur va prendre cette brique, il va la jeter de côté. Et ça, malheureusement, c'est le sort de beaucoup. De beaucoup qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas cherché à, je vais dire quelque part, redresser leur vie. Et on va voir plus loin comment on peut redresser sa vie. Alors ma question, et qui est liée un peu au titre, c'est est-ce que je suis vainqueur ce matin ? Est-ce que j'ai une vie de victoire ? Est-ce que j'ai laissé le Seigneur agir dans ma vie ? Ou est-ce que je regarde encore aujourd'hui à Christ ? On vient de lire « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Pourquoi on s'inquiète aujourd'hui ? Est-ce que je connais mes lendemains ? Est-ce que je sais ce qui va m'arriver demain ? Moi qui vous parle aujourd'hui, demain je peux être mort. Vous qui êtes assis dans cette église, vous pouvez très bien être mort demain. Ne t'inquiète pas du lendemain. C'est ce que la parole nous dit. Pourquoi on devrait regarder, jeter des regards inquiets sur ce qui nous arrive aujourd'hui ? Parce que demain, ça peut être complètement l'inverse. Combien de fois on s'est retrouvé dans une terre de défaite ? Combien de fois on a traversé la vallée de Baca ? Vous savez ce que c'est littéralement la vallée de Baca ? C'est la vallée des larmes. Combien de fois on s'est retrouvé dans cette vallée ? La parole de Dieu n'a jamais dit qu'on allait traverser une vie magnifique. Tiens, crois en moi et tu verras, tout va très bien se passer. Tu n'auras plus aucun problème. C'est faux. Il n'y a qu'un seul moment où vous allez trouver ça dans la parole de Dieu. Un seul moment, l'Apocalypse, quand le livre sera refermé. Il n'y aura ni pleurs, ni il n'y aura que de la joie. Ni maladie, il n'y aura plus rien du tout. C'est le seul moment où la parole effectivement vous dit « Votre vie sera magnifique ». La seule différence, c'est que cette vie magnifique, ce sera à l'éternité et dans la présence de Dieu. Mais sinon, la souffrance est inéluctable pour chacun d'entre nous. Pour certains, elle fait partie de leur quotidien. Elle fait partie de la vie terrestre de chacun. Personne ne passe au travers de choses ou une vie facile, c'est totalement faux. Si, vous pouvez. Vous pouvez, mais alors ça sera une vie de compromis. Une vie où ben, vous allez clocher des pieds. Et on va le voir plus tard. Les larmes peuvent couler sur nos joues. On peut pleurer tous les jours. Mais on sait dans nos profondeurs. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure, on doit faire le point, est-ce que c'est une vie de religion, de religieux, ou est-ce que c'est vraiment une vie à Christ ? Parce que si c'est vraiment une vie que j'ai donnée à Christ, je sais que Dieu est le Dieu de toute consolation, il viendra et il nous consolera. Je suis persuadé qu'il veut consoler ce matin. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Quand on connaît la puissance du divin, de quoi on a à s'inquiéter? Même si on traverse des choses difficiles, l'Éternel va nous porter. L'Éternel va venir avec nous dans le feu. Jamais il ne nous abandonnera. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce qu'on a oublié ces promesses? Et on mesure, quand on lit ce verset, on mesure la fidélité de Dieu. Imaginez qu'un jour il nous dit, débrouille-toi. Là, effectivement, on va connaître le désarroi dans notre vie. Parce qu'on n'aura plus rien, plus personne sur qui s'appuyer. On sera dans le vide. Et on aura encore même des douleurs. On aura encore même des épreuves. La seule différence, c'est que on sera seul pour les traverser. Alors, est-ce qu'on est différent du peuple de Dieu? J'ai pas l'impression. Celui qui dit qu'il y a différence, c'est qu'il dit qu'il ne pêche pas, qu'il n'aime pas menteur, qu'il est parfait. Je vous invite à lire le premier épître de Jean. Vous allez vite comprendre qu'il faut vous remettre en question. Combien de fois on a fait demi-tour dans notre vie de chrétien? Combien de fois? Combien de fois on a voulu tout laisser tomber en disant « Mais s'il y avait un Dieu ?» Est-ce qu'on a mis notre foi de côté parce que ça allait mal dans notre vie? Est-ce qu'on a laissé tomber la confiance en Dieu parce qu'il y a des choses qui nous approchaient un petit peu difficiles et qu'on avait peur? Lorsqu'on a promené des regards inquiets, est-ce qu'on n'aurait pas laissé tomber la parole de Dieu à ce moment-là? Dire que, au fait compte, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça n'a servi à rien. Si c'est ça, être chrétien, c'est ce qu'on m'a dit une fois. Et qu'est-ce qu'il a dit Étienne alors? Qui s'est fait décapiter? Qu'est-ce qu'il a fait Jean le Baptiste? Pareil, il a connu la mort, pareil comme lui. Mais si c'est ça, être chrétien, annoncer Jésus-Christ et se faire tuer, la parole ne nous dit absolument pas ça. Ils avaient une foi. Ils avaient la foi. Alors, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'avoir la victoire dans nos vies? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a la défaite, on n'a pas la victoire? La question, c'est à quoi suis-je attaché aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'attache? Qu'est-ce qui est en premier dans ma vie aujourd'hui? Ma vie dans ce monde tourne autour de quel axe? Je pense que dans vos profondeurs, vous avez déjà la réponse. La parole nous invite de façon claire, mais parfois de façon allégorique, à prendre position. Si on en lit, 1er épître de Jean, chapitre 2, verset 15, et vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis notre vie tourne autour de quoi. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Vous vous rappelez, quand je vous ai fait aux études bibliques, je vous ai toujours dit, en Jean, il n'y a pas de niveau de gris. Soit on est du diable, soit on est de Dieu. Si on aime le monde, on est du diable. Parce qu'on a l'esprit du monde dans notre vie. Ensuite, le verset qui suit nous en donne l'explication. 1 Jean chapitre 2, verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Qu'est-ce qui est en premier dans notre vie? Je vous invite à vous poser cette question. Combien de chrétiens ont du mal à se détacher du monde? C'est une chose difficile, parce que dans le monde, il y a un esprit. Et l'esprit qui est dans le monde est très puissant. Il vous aveugle. J'ai dit cette semaine à certains, où je travaille, il y a beaucoup de gens qui pensent être libres. Et quand les gens pensent être libres, quand vous entendez les gens, vous savez, avec le coronavirus, vous les entendez, ils passent devant la caméra, ils disent « Oui, mais nous, on a besoin de liberté. » Alors, pour les gens du monde, la liberté, c'est faire la fête, picoler. C'est beau, hein? V'là la liberté de ce monde. Alors, j'ai dit à mes collègues, vous savez, il n'y a rien de plus esclave que les gens qui commencent à dire « Je suis libre ». Ils sont esclaves de ce qui a triomphé d'eux. On le verra plus tard. Et dans ce monde, on parle de liberté quand on parle de fête, quand on parle de lien social. Ah, bien sûr, le lien social, vous associez ça à l'alcool, vous associez ça à plein de choses. Vous savez, la misère du monde, on le voit et on l'entend. Vous imaginez que les violences faites aux femmes ont augmenté depuis le premier confinement de 30%. De 30%. Et il y a des gens qui arrivent à vous dire qu'on est bien dans ce monde-ci. Il n'y a jamais eu autant de détresse qu'en ce moment-là. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas d'objectif. Parce que les gens n'ont pas d'espoir. Si l'espoir, c'est aller picoler, aller faire la fête, ça va être quoi quand ces gens auront 70 ans, 80 ans, qui ne pourront plus aller picoler, faire la fête ? Ça va être quoi leur espoir ? Ça va être d'attendre, comme on dit, ou on entend souvent, d'aller dans le trou. Alors que nous, chrétiens, on a un espoir, et on va le voir après. On a une espérance. Donc ces chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui sont attachés au monde. Et ils ont du mal à s'extirper de cet esprit qui est dans le monde. Et en fin de compte, on s'aperçoit quoi ? Et c'est visible dans une église. On ne vous le dira pas, mais en tant qu'ancien, en tant que pasteur, même vous, en tant que, je vais dire, membre de l'église, vous voyez, à partir du moment où la personne n'a pas de stabilité spirituelle, c'est quelqu'un qui fait des compromis dans sa vie. C'est quelqu'un qui, en fin de compte, a du mal à se détacher de ce qui est en lui, de ce qui a triomphé de lui. Et il y a plein de choses. Je ne vais pas les énumérer, mais il y a plein de choses qui, aujourd'hui, font que les gens, vous voyez, un coup ils sont comme ça, un coup ils sont comme ça, un coup ils sont comme ça. Aucune stabilité spirituelle. Au lieu d'avoir la victoire dans sa vie, on n'a que des défaites. Et vous avez des gens, constamment, ils veulent voir le pasteur parce que ceux-ci, veulent voir les anciens parce que ceux-là. Confie-toi en l'Éternel. C'est ce que la parole dit. Et, en fin de compte, ces gens sont toujours dans le combat. Constamment dans le combat. Et ils rencontrent parfois des victoires, mais très peu. Alors, au lieu d'être victorieux, ils sont constamment vaincus. Ils sont dans la défaite permanente. En 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, nous pouvons lire « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » C'est ce que je vous expliquais. On est esclave de ce qui a triomphé de nous. Qu'est-ce que ce matin ? Quelles sont les choses qui ont triomphé de nous ce matin ? Regardons notre vie. Je ne parle pas de vie chrétienne, mais je parle de « regardons notre foi ce matin ». Comment est notre foi ce matin ? Vous voyez, je ne parle pas de vie chrétienne, parce qu'une vie chrétienne, on peut l'habiller. On peut l'habiller. On peut avoir de la religiosité. Et vous savez que Dieu a horreur de la religiosité. Il peut arriver dans un repas de noces, il va dire, mais c'est quoi cet habit que tu as mis? Tu as revêtu un habit que je ne t'ai pas donné. C'est la pensée que j'ai eue. C'est quoi l'habit que tu as revêtu? Vous savez quel habit Dieu veut nous donner? L'habit de justice. Lisez la parole et vous verrez. Il veut nous donner cet habit de justice. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on a revêtu comme habit? Est-ce qu'on va de défaite en défaite, errant sur le bord du chemin, au lieu d'être au milieu du chemin, au milieu du courant d'eau vive? Parce qu'on se laisse envahir par des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité de la vie de Jésus-Christ. Rien à voir. Est-ce que on voit encore les miracles que Jésus a fait dans notre vie? Est-ce qu'on les voit encore? Lorsqu'il est venu nous chercher dans la boue où nous étions, est-ce qu'on le voit encore ça? Peut-être qu'aujourd'hui notre vie n'est pas parfaite. Et je dis merci, parce que ça prouve qu'on a encore besoin de lui. Et quand on ne se sent pas parfait, justement, c'est là où on doit être au pied de Jésus. Si on n'est pas au pied de Jésus, c'est qu'on refuse la grâce de Jésus-Christ. Et là, attendez-vous à avoir une vie de défaite. Mais si on est constamment au pied de Jésus-Christ, son sang va couler sur nous. Et c'est la victoire qu'on va connaître. Et je vais vous donner un verset qui va nous donner, vous aider à réfléchir. En 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Vous savez, quand les gens commencent à ne plus répondre, c'est qu'on a touché quelque chose. Lorsque Élie a dit ça au peuple, il a touché quelque chose dans leur cœur. Vous imaginez qu'il y avait l'Éternel derrière. C'est lui qui a donné cette parole à Élie. Et quand on n'a plus rien à dire, quand on ne sait pas quoi dire, devant la vérité et la puissance de la parole de Dieu, c'est qu'on est fautif. Et le peuple ici était fautif. Sincèrement, qu'est-ce qu'on peut répondre à un Dieu qui nous aime de cette façon-là? Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Qu'est-ce qu'on peut répondre alors qu'on lui fait tant de mal par notre incrédulité, notre désobéissance? Alors on va faire quel choix ce matin? Quel choix on veut faire ce matin? Est-ce qu'on veut suivre Dieu ou est-ce qu'on veut suivre Baal? Baal, c'est l'esprit du monde. Hein. C'est l'esprit du monde. Et vous allez voir que plus ça va venir, plus on va nous forcer à aimer l'esprit du monde. Parce que si on n'aime pas l'esprit du monde, on va être haï. Et la parole nous dit, Jésus a dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Est-ce que ce matin, je prends la résolution d'être haï à cause du nom de Jésus-Christ? Réfléchissons 2 minutes. Ça va nous positionner ce matin dans notre foi. Parce que ce que je vous dis là maintenant, ça va arriver dans les 5 ans qui viennent. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place où, à un moment donné, on sera obligé de dire, bah oui, ma vie, c'est Jésus-Christ. C'est pas ce monde-là. Vous voyez, tout est lié. Si je ne connais pas dès aujourd'hui une vie de victoire, quand ces choses vont arriver, comment vais-je réagir? Est-ce que je vais être un Judas? Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que je vais être un Judas? Judas, je vous rappelle, a toujours été avec les douze. Toujours, toujours. Et pourtant, il a trahi Jésus. Pierre, il a dit, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, moi, jamais je te trahirai. Jésus lui a dit, tu vas me trahir trois fois avant que le coq chante. Est-ce qu'on va attendre trois fois avant de le trahir Jésus? Parce que ça va engager nos vies. Peut-être pas notre vie physique, mais notre vie de tous les jours. La parole nous dit à la fin, ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront plus acheter ni vendre. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, justement. Et lorsque vous n'aurez pas la marque de la bête, vous ne pourrez plus acheter ni vendre. Ce n'est pas spirituel. C'est vraiment ce qu'on va connaître. Alors si aujourd'hui ma vie n'est pas une vie de victoire, qu'est-ce que ça va être quand ces choses vont nous arriver en pleine figure? Peut-être que vous dites dans vos profondeurs, en fait, compte, ce que Pascal est en train de me dire, c'est moi aujourd'hui. Peut-être vous dites, oui, mais j'ai pas eu de solution. J'ai prié l'Éternel, il ne m'a jamais répondu. L'Éternel n'écoute jamais que les paroles. Il regarde les actes. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Pourquoi il ne nous a pas répondu ? Peut-être qu'il était en vacances. Peut-être qu'il avait trop de travail, à votre avis. Pourquoi il ne nous a pas répondu ? Quand je pêche, quand il m'arrive de pêcher, est-ce que j'arrive à la réunion de prière le vendredi et je dis « Seigneur, je t'aime, tu es mon Dieu ». Sincèrement. Est-ce que il y a la repentance dans ma vie ? Voilà, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que dès que je sais que j'ai péché contre l'Éternel, même si c'est une chose banale, est-ce que je me repens ? Seigneur, je te demande pardon. Et quand je dis repentant, ça veut dire je te demande pardon, je fais demi-tour. On s'étonne qu'aujourd'hui, il n'y a plus de miracle, justement. On parlait de ça cette semaine avec Arlette. On s'étonne qu'il n'y ait plus de miracle, alors que Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Mais pourquoi ? Parce qu'on se présente, on a le toupet de se présenter devant l'Éternel sans repentance. Sans repentance. On se dit, oui, mais bon, je suis lavé par le sang de Jésus-Christ. Waouh ! Je vous arrête tout de suite. Si vous êtes lavé par le sang de Jésus-Christ et vous vous présentez devant Dieu sans repentance, vous n'avez rien compris du tout. Ça veut dire que si on a ce cœur-là, Jésus-Christ n'habite pas en nous. Je vous le dis tout de suite. Mettez le péché et mettez Dieu. Vous prenez deux aimants, vous retournez un des deux aimants et essayez de les rapprocher. Vous allez vite sentir qu'il y a une résistance. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Dieu ne tolère pas le péché. Il ne peut pas entrer là où il y a le péché. Dès qu'on a oublié la repentance dans notre vie, c'est un obstacle. C'est un obstacle. Pourquoi on lit souvent des choses du genre « si tu as quelque chose contre ton frère, t'arrêtes tout, tu vas avec lui, tu lui demandes pardon, on prie ensemble. » Vous voyez, il y a plein d'avertissements dans la parole de Dieu. Et souvent on les lit, c'est pas grave, on n'y prête pas attention. Il y a plein d'avertissements. Le manque de repentance, c'est le plus grand frein, c'est l'un des plus grands freins pour avoir une vie de victoire. Pourquoi ? Parce que l'Éternel ne viendra pas dans une vie comme ça. C'est pas possible. Vous faites quelque chose de mal, c'est pas grave. Dieu sait, Dieu me connaît. Et pourtant, en acte 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Vous voyez, les deux sont liés. Hein. Repentez-vous, la première chose à faire, et convertissez. Il y a des gens qui disent, ben voilà, j'ai la foi, maintenant je vais me repentir. C'est faux. C'est faux. C'est Seigneur, je me reconnais pécheur devant toi. Voilà. C'est la première chose à faire. Et ensuite, on se convertit. Et bien sûr, ce n'est pas nous qui nous convertissons. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de pécher. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voilà une promesse, des temps de rafraîchissement. Est-ce que quelqu'un a déjà marché sous des 40 degrés ? Je pense qu'Emmanuel et Isabelle et leurs enfants peuvent nous le dire. Qu'est-ce que ça a fait quand ils ont porté le premier verre d'eau à la bouche, ou la gourde à la bouche ? Vous savez, j'ai vécu où je faisais des 75 km à pied avec un sac à dos de 20 kilos. Vous savez, quand on posait le sac, déjà, on avait l'impression de s'envoler. Mais quand on boit, là, on comprend ce que sont ces temps de rafraîchissement de Dieu. On comprend ce que sont ces temps de rafraîchissement. Ça veut dire qu'au milieu du feu, au milieu de la bataille, l'Éternel arrive et pour vous, c'est un soulagement. Un véritable soulagement. Il y a une importance qui est capitale, c'est de croire simplement. Jésus a toujours dit « je fais ». Je vais vous donner un exemple. Jésus 10, chapitre 10, verset 37, bien sûr, c'est une façon de dire « je fais ». « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père. Il est entré dans la gloire de son Père parce qu'il a fait les œuvres de son Père. Vous voyez ? Quand je vous ai dit que tout à l'heure que Dieu n'écoute pas les blablas, il regarde les actes. Jésus a dit « je fais » et il l'a fait. Dieu écoute nos prières. Puis il se dit ben « maintenant, on va voir ». Une épreuve arrive, patatras, tout s'effondre. C'est lorsqu'on rentre dans l'œuvre de Jésus-Christ, lorsqu'on entre dans la pratique de la parole, dans le « je fais ». Vous voyez, il y a une différence entre le dire et le faire. Il y a des gens qui vont toujours vous dire « t'inquiète pas, je vais le faire ». Ils ne vous ont jamais dit l'année qu'ils allaient le faire. Et des fois, vous pouvez attendre longtemps. Et ils ne le font pas du tout. C'est le fait que les choses descendent du cerveau, de notre intelligence, sur le cœur. Le fait que lorsqu'on lit la parole, ça n'est plus une lecture intellectuelle, mais une lecture spirituelle. Vous voyez, on lit la parole de Dieu avec son cœur. On ne lit plus la parole de Dieu avec son cerveau. Pourquoi, d'après vous, à un moment donné, la parole de Dieu s'ouvre à vous ? C'est-à-dire que vous comprenez des choses qu'il y a des années que vous ne compreniez plus. D'après vous, pourquoi ? Parce que c'est les yeux du Saint-Esprit qui vous montrent la vérité qui est derrière chacun des mots de la parole de Dieu. Ce ne sont pas vos yeux, ça n'est pas votre intelligence. Si c'est votre intelligence, le livre sera toujours fermé à vous. Vous n'allez rien comprendre. Mais si c'est les yeux du Saint-Esprit qui lisent, vous allez tout comprendre. Et Dieu vous donnera justement ces temps de rafraîchissement parce qu'il vous accompagnera dans votre quotidien. En 1 Jean chapitre 5, verset 5, je reviens encore à cela, « Qui est celui qui a triomphé du monde ?» Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est le seul moyen qu'on a de triompher du monde. C'est lorsqu'on est désobéissant, réfractaire à la parole, qu'on va commencer à baisser la tête. Vous savez, à ne plus regarder à Jésus-Christ, ne plus fixer Jésus-Christ. Et on s'éloigne en fin de compte. On s'éloigne de la parole. On s'éloigne de l'assemblée. Et en fin de compte, on est complètement anéanti. Et ça, ce sont les conséquences de la désobéissance. On est anéanti. Et en fin de compte, pourquoi on est désobéissant? Ça, c'est le deuxième point. Je vais essayer d'aller plus vite parce qu'il est déjà 11h25. Quand je vous ai dit que ça allait être long. Alors, suis-je désobéissant? La question qu'on doit se poser, c'est « Ah oui, bah Pascal, tu es dur avec nous. Moi, je ne suis pas désobéissant. Suis-je désobéissant ?» Dans le monde du chrétien, on emploie souvent le terme « être désobéissant » en ce qui concerne surtout ce qui sont les choses de Dieu. Être désobéissant dans ce sens-là, c'est de faire ou d'être à l'opposé de ce que Dieu nous demande dans sa parole. Ou peut-être même directement, lorsqu'on le reçoit sur son cœur. Vous savez, le Jonas du coin va à Ninive et demande-leur à ce qu'ils se repentent. Non, non, il est hors de question, je me sauve. Est-ce qu'on est parfois dans nos vies des Jonas? Nous sommes des Jonas, pardon. C'est ça, c'est faire être à l'opposé ou faire l'opposé de ce que Dieu nous demande. Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas la loi du pays, d'un pays, et qui enfreint cette loi est coupable, à votre avis? Oui, entre guillemets, mais non. Vous passez devant un tribunal, vous dire ben, « Écoutez, j'étais absolument pas au courant de ça. Le juge ne vous condamnera pas. Hein. » Il va vous dire « Bon, maintenant, vous savez que ça, c'est interdit. » Paul, dans ses écrits, comment il a connu le péché? Parce qu'il y avait la loi. C'est la loi qui lui a dit que ce qu'il faisait était un péché. Sans la loi, il était incapable de dire qu'il péchait. Lui, il pensait que ce qu'il faisait était bien. Et en fin de compte, un chrétien désobéissant, c'est un chrétien qui connaît ce que Dieu demande, qui sait ce que Dieu demande. Vous voyez, ça va au-delà de... Il sait parfaitement ce que Dieu demande, mais il enfreint. C'est-à-dire qu'il désobéit consciemment. Moi, je suis désolé, le chrétien qui sait que ce que Dieu demande et qui ne le fait pas, il le fait consciemment. On ne peut plus dire oh, ben, « j'étais pas au courant, je ne savais pas que dans la parole de Dieu, c'était marqué ça ». Et je ne parle pas ici des gens qui n'ont pas la foi, hein, parce que bien sûr, celui qui s'en fiche de Dieu, il s'en fiche de Dieu, de ce que Dieu va dire. Ça, c'est clair. Je parle vraiment d'un chrétien. Et pour moi, ça, c'est grave. En hébreu, ce qu'a conseillé Emmanuel tout à l'heure, hébreu chapitre 4, verset 6, « Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. » Là, ici, dans hébreu, on parle de rentrer dans le repos de Dieu. Ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu par manque de foi. Et le manque de foi, ça a causé de la désobéissance dans le peuple. Et de ce fait-là, ils ne peuvent pas entrer dans le repos de Dieu. Et dans le même chapitre, au verset 11, il est dit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » C'est-à-dire que si je rentre ce matin dans le repos de Dieu, c'est-à-dire la satisfaction de l'âme en Jésus-Christ, bien sûr, la paix de l'âme en Jésus-Christ, si je ne suis pas dans cet état ce matin, ça veut dire que j'ai désobéi. Je ne suis pas entré dans le repos de Dieu. Si j'ai les soucis de la vie qui m'accaparent, j'ai vu des gens traverser des choses difficiles, ça ne s'est jamais vu. Leur vie était un enfer, c'est-à-dire qu'ils traversaient des choses extrêmement difficiles. Ils arrivaient à l'église, ils étaient rayonnants. Ils étaient rayonnants. Et ça, contrairement à l'assurance qu'on a d'être sauvé, il faut avoir soif d'entrer dans le repos de Dieu. Alors on peut lire en Jean chapitre 6, je vais essayer d'accélérer, Jean chapitre 6, versets 39 à 40, « Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Quiconque voit le Fils et croit en lui. Donc, cette parole s'adresse qu'aux gens du temps de Jésus-Christ. À votre avis, quiconque voit, c'est pas dit connaît, c'est quiconque voit le Fils. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole-là? Quiconque voit le Fils, c'est voir le Fils dans sa vie. C'est-à-dire qu'on produit Jésus-Christ dans notre vie. Il y a les fruits de la vie de Jésus-Christ dans notre vie. Quiconque voit le Fils dans sa vie et croit en lui, il a la vie éternelle. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la religiosité. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être à l'église, d'être présent à toutes les réunions. Ça n'a absolument rien à voir. Quiconque voit le Fils, est-ce que je vois le Fils ce matin dans votre vie? Ça sous-entend bien sûr le fait d'être en dehors de l'Église. Est-ce que je vois le Fils quand vous êtes en dehors de l'Église? En fait, quand on devient partenaire du Messie, on devient partenaire du Messie sur cette terre maintenant, mais on deviendra partenaire du Messie lorsqu'il reviendra pour son règne glorieux. Et ça, on doit le faire jusqu'à la fin, sans désobéir. Alors, de cette là, on ne suivra pas l'échec, l'exemple du peuple, parce qu'on est obéissant à la parole. Donc la désobéissance est un frein à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Chaque fois qu'on va désobéir, c'est un échec. Chaque fois, on va en subir les conséquences. Peut-être pas une punition de Dieu, hein. C'est simplement que les choses pour nous vont être plus difficiles. Alors au lieu d'être un vainqueur, on est vaincu. Au lieu d'avoir une vie de victoire, on a une vie de vaincu. On va de défaite en défaite. Alors, il me reste encore deux points à voir. Pourquoi, alors à ce moment-là, suis-je désobéissant? Pourquoi suis-je désobéissant? Parce que je n'ai pas envie de suivre Dieu? Parce que c'est une question qu'il faut se poser. Le premier point, vous allez vite comprendre, c'est le manque de foi. Comment je peux adhérer à quelque chose dont je ne crois pas? Et il faut bien se poser la question. Comment je peux adhérer à quelque chose dont je ne crois pas? Ça veut dire que si je suis désobéissant, vous savez, je joue un peu le rôle de Jean, le premier épître de Jean, si je suis désobéissant, ça veut dire que je ne crois pas en Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Vous voyez qu'il faut lire trois fois Hébreux. Il faut suivre les conseils d'Emmanuel. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. C'est quoi une ferme assurance? Ça veut dire que je suis sûr. J'en suis sûr. Personne ni rien ne fera changer d'avis, parce que j'ai une ferme assurance. J'ai une ferme assurance de quoi ce matin? Est-ce que j'ai une ferme assurance que le Seigneur est intervenu dans ma vie? Est-ce que j'ai une ferme assurance ou un doute sur le fait que, ben, un jour Dieu m'a abandonné alors que j'étais dans la mouise? Rigolez pas, il y en a plein qui ont quitté une église à cause de ça, en disant s'il y avait un Dieu, j'aurais pas traversé ces choses-là. C'est ça, être chrétien? Bon, la personne qui dit ça, je lui dis, t'inquiète pas, t'as jamais été chrétien. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut vraiment se poser les bonnes questions pour connaître la réalité de notre foi. La foi, en fin de compte, c'est une conviction par laquelle le croyant reconnaît la création de Dieu. Hébreux, chapitre 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Est-ce que je crois la Genèse? Est-ce que je crois que Jésus-Christ est venu? C'est-à-dire Dieu est venu incarné en Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il est ressuscité et aujourd'hui il est à côté du Père et il plaide pour chacun d'entre nous. Est-ce que j'y crois? Ou est-ce que... Ça me rassure, ça m'évitera de passer mes jours en enfer. Non, mais ce que je vous dis, je suis sérieux quand je dis ça, parce que si vous me dites non aujourd'hui, ça veut dire que votre vie doit changer du tout au tout. Du tout au tout. L'amour de Dieu, c'est la réalité des choses invisibles. Je sais que Dieu m'aime. Je sais, dans mon cœur, dans mes profondeurs, même si aujourd'hui je suis dans la misère, même si aujourd'hui je traverse des choses difficiles, je sais que Dieu m'aime. Et si je reprends le début, il viendra à notre secours. C'est pas magnifique? Je sais que Dieu m'aime et je sais qu'il viendra à mon secours. Est-ce qu'on va mettre tout notre cœur dans quelque chose dont on n'a pas la conviction? Non, absolument pas. Si je vous dis tel bateau, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème, vous pouvez rencontrer n'importe quelle tempête. Puis je vous présente un petit Zodiac en caoutchouc. Est-ce que vous allez traverser les plus grandes des tempêtes avec ce petit Zodiac en caoutchouc? Ben non. Si je vous montre un bateau puissant, là vous allez dire oui, j'y vais. Et ce bateau puissant, c'est Dieu. Mais la différence, est-ce que dans ma vie, je vois ce bateau puissant? Est-ce que j'ai la conviction que ce bateau est puissant? Est-ce que j'ai la conviction que Dieu est puissant? Est-ce que j'ai la conviction que Dieu est à mes côtés, quel que soit ce qui se passe dans ma vie? Vous imaginez, c'est quelqu'un qui fait une crise cardiaque, qui a le défibrillateur à côté de lui, et vous avez une personne qui arrive, qui voit qu'il ne s'en sert pas. Parfois, dans nos vies, on a exactement la même chose. Il y a quelque chose de difficile qui nous traverse. On va chercher le voisin, on va chercher... Puis on oublie que il y a Dieu. Dieu, il arrive, il pose juste son doigt. Tic! Terminé. C'est fini. On doit croire, en fin de compte, sans se poser de questions. Pourquoi Ève a chuté? Pourquoi Ève a chuté? C'est parce que, voilà, Dieu lui avait dit, ne touche pas de cet arbre. Satan est arrivé, mais attends, est-ce que Dieu t'a vraiment dit ça? Au lieu de dire, oui, Dieu m'a dit ça, elle a commencé à dire, t'as peut-être raison. Et bing patatras. Moïse est arrivé devant l'Éternel, il va dire, mais je paraphrase, hein, tu vas laisser mourir ton peuple comme ça? Il y a les Égyptiens qui arrivent, il y a la mer devant. Dieu a simplement dit qu'ils avancent. Si le peuple avait dit, attends, c'est pas possible, ben, ils seraient morts. Ils ont avancé. Quand ils ont commencé à avancer, la mer s'est ouverte. Et dans vos vies, c'est exactement la même chose. Mais attends, je suis là. Regarde, obéis et tu verras. En Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que je crois dans mes profondeurs que Dieu existe ?» Ça met un défi dans nos vies, le défi de la foi. C'est une évidence primordiale dans nos vies, la foi. Est-ce qu'on a reçu la foi chacun ce matin? J'espère qu'on en est conscient. Ce n'est pas nous qui l'avons produit, hein. C'est Dieu qui nous la donne. Qu'est-ce qu'on en a fait? Si vous ne savez pas, vous allez lire la parabole des talents. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'elle est restée au même niveau? Voilà, le Seigneur m'a donné ma foi, maintenant je ne veux pas la perdre, donc je l'enterre. Ou est-ce que je dis non, en toute chose j'engage ma foi. Et elle devient puissante, elle devient réelle dans ma vie. La foi, en fin de compte, ça nous apporte une victoire. La victoire de comme une récompense. Il y a beaucoup de gens qui ont engagé leur foi et qui ont gagné des combats incroyables. Parce qu'ils ont engagé leur foi, qu'ils ont dit « Oui, je crois en ce Dieu puissant. Rien ne me fera reculer. » David, devant Goliath, il avait 12 ans. L'autre, c'était un super guerrier qui avait rencontré des victoires. Lui, il est allé avec une fronde et une pierre. Voilà ce qu'est la foi. Combien ont lâché la parole, combien ont lâché l'assemblée, je vous ai dit déjà, parce qu'ils avaient des doutes, parce qu'ils traversaient des difficultés et qu'ils pensaient « Ah, s'il y avait un Dieu, je n'aurais pas travaillé ». C'est vrai que quand on est chrétien, rien ne nous arrive. C'est ce que la parole nous dit. Il n'y a rien qui va vous arriver. C'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. La seule différence, c'est qu'on est accompagné. Il est à notre droite. La foi, en fin de compte, donne, j'essaie de décourter parce qu'il y a déjà moins le quart, la foi, en fin de compte, ça nous donne une espérance. Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois, si tu confesses déjà de ta bouche, est-ce qu'on confesse Christ à notre entourage, à notre famille, à nos amis, dans notre travail? Mais est-ce que je crois? Est-ce que je crois dans mes profondeurs? Pas une croyance intellectuelle, mais est-ce que je crois dans mes profondeurs que Dieu l'a ressuscité des morts? Là, on est sauvé. Il faut confesser que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Et que grâce à cette œuvre, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Jean 3, 16. Donc, j'aimerais aborder avec vous, donc on a vu l'histoire de la foi, et il y a un dernier point qui est très important, et je ne voudrais pas le passer à côté, donc je vais essayer de faire assez vite, c'est la persévérance. On peut avoir la foi, mais si on ne persévère pas, on perd tout. C'est l'élément essentiel pour la vie d'un chrétien. Combien de fois on a ralenti ou on s'est arrêté dans notre vie spirituelle à cause des épreuves? Faisons le point. Lorsqu'il y a eu des tempêtes, lorsqu'il y a eu des pensées qui nous ont envahies, combien de fois on a arrêté? Combien de fois on a ralenti? Et à chaque fois, ce qu'on remarque, c'est qu'on a connu une défaite spirituelle. On n'a pas connu une défaite physique, on n'a pas connu une défaite morale, on l'avait déjà. Mais on a connu une défaite spirituelle. On a reculé. Au lieu d'avancer avec le Seigneur, on a reculé. La parole nous dit quelque chose qui va résumer cette prédication. Romains chapitre 5, verset 4, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. En fin de compte, l'affliction, ce qu'on connaît comme chose difficile, ça produit la persévérance, la fermeté. C'est la capacité de rester dans les difficultés sans jamais abandonner. J'ai connu des gens qui ont vécu ça. J'ai connu des gens qui ont vécu ça. Ces fameuses personnes qu'on a vues passer la porte avec un grand sourire, parce qu'elles n'ont jamais abandonné la foi. Parce qu'elles avaient placé leur confiance en l'Éternel. Jacques nous dit, en chapitre 1, versets 3 et 4, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Comment un chrétien doit-il réagir face aux difficultés, face aux choses qui arrivent? Alors attention, il doit se glorifier de ses afflictions. Alors quand j'ai dit ça, celui qui n'a pas connu d'affliction réelle, il va se dire « oui, c'est facile ». Mais se glorifier de ses afflictions, c'est-à-dire remercier Dieu des épreuves qu'on rencontre. En fait, compte, la vraie foi, c'est ça. C'est ça, la vraie foi. Cette vraie foi, en fin de compte, elle produit la patience, ou l'endurance, si vous voulez. La fermeté d'une vie spirituelle accomplie en Jésus-Christ. C'est ça que produit justement ces choses. Et la patience, ce n'est que le premier des bénéfices. Il y en a d'autres. Toute foi éprouvée produit la patience, c'est ce qu'on vient de voir. Et c'est le fait de poursuivre jusqu'à la fin qui va nous donner une maturité et un épanouissement spirituel. Il ne faut pas aspirer aux souffrances. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous expliquer. Mais c'est lorsqu'on les traverse avec foi que l'on grandit spirituellement. Les deux mots décrivent ce but parfait et accompli. C'est souvent traduit parfait et traduit par fait, et accompli est traduit par entier. On est fait et entier en Jésus-Christ. Quelqu'un qui est entier, c'est quelqu'un que vous ne pourrez jamais faire changer d'avis. Fait et entier en Jésus-Christ. On peut traverser les épreuves avec joie. Rappelez-vous, lorsqu'on voit Pierre dans les Actes, qui chantait dans la prison, Et en fin de compte, ça prouve une foi qui a été faite et produite par Jésus-Christ. Ce n'est pas une foi qu'on a construite, bricolée, à force de venir à l'église, à force de lire notre évangile, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire l'évangile qui fait du bien, les bonnes choses de la parole de Dieu, en oubliant celles qui nous remettent en question. Et cette vie, en fin de compte, c'est une vie qui nous amène à une vie de victoire. Une vie remplie de la victoire de Jésus-Christ. Et là, il y a une glorification dans, justement, les afflictions, parce que nous sommes tous, lorsqu'on connaît ça, on connaît le point final de, justement, cette formation. C'est que ça produit la persévérance. C'est-à-dire que je sais qu'avec ce que j'ai traversé, avec le fait que le Seigneur a été toujours avec moi, je sais que je vais continuer. Je ne vais pas être défait, je ne vais pas connaître la défaite dans ma vie, mais ma vie sera une vie de victoire. Et ce n'est pas moi qui vais produire cette vie de victoire. C'est en fin de compte Jésus qui est en moi. Parce que notre foi, à ce moment-là, sera parfaite. Ça ne sera pas une foi théologique, ça ne sera pas une foi intellectuelle, mais ça sera la foi que Dieu nous aura donnée et qui aura grandi en fermeté. En conclusion, connaître une vie de victoire, ça ne s'acquiert pas d'une façon, vous savez, voyez, je suis victorieux. C'est absolument pas ce que je vous dis ce matin. En fin de compte, ça engage notre foi. La première chose qu'on doit regarder ce matin, c'est quel est l'état de notre foi ce matin. Est-ce que je suis chrétien du dimanche? Ou est-ce que vraiment je dis Seigneur, tu es ma vie? Ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage. Mais ce que je dois dire souvent, c'est que dans les épreuves, on manque de courage, malheureusement. Alors il faut demander ce courage à l'Éternel. C'est facile de dire qu'il faut se glorifier de ses afflictions. Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui je souffre. C'est facile de le dire. Lorsque je dis ça, je ne suis pas plus avancé. Nous devons dire que ça, c'est une vérité biblique, parce que ça nous forge le caractère. Et ça ne nous forge pas un caractère humain, ça nous forge un caractère spirituel. Est-ce que vous pensez sincèrement que Dieu nous a sauvés, chacun, pour que l'on souffre? Absolument pas. Il a fait souffrir qu'une personne, Jésus-Christ. C'est la seule personne qui l'a fait souffrir. Et il l'a fait souffrir parce qu'il nous aime, bien plus qu'on ne peut imaginer. Il y a un but final, bien sûr, à tout ça, c'est qu'on connaisse réellement la vie éternelle. Qu'on connaisse cette vie éternelle. Et il faut faire très attention à notre vie de tous les jours. Et peut-être faire le point ce matin, ou cet après-midi, ou demain, ou ce soir peut-être, sur ce qu'on est réellement face à Dieu. Parce qu'un jour, on passera devant lui et il ne répondra rien. C'est ce que le peuple a fait devant Élie. Il ne répondra rien, parce qu'on n'aura rien à dire. Alors je vous invite ce matin à avoir cette vie de victoire. C'est-à-dire ce matin, vous dites, Seigneur, j'engage ma foi dans ces choses. Aujourd'hui, je laisse tomber tout ce qui fait ma vie. Je m'engage à te suivre réellement. J'engage ma foi. Cette petite foi qui est maladroite peut-être aujourd'hui va être une foi de victoire demain. Elle va vous remplir de Jésus-Christ. Vous savez, on n'est jamais conscient de ce que Dieu a comme merveille pour nous. On n'est jamais conscient de ces choses. Et on se bat contre nous, on se bat contre ce qui est notre nature, au lieu de baisser les bras et de dire « Seigneur, fais ton œuvre ». Et aujourd'hui, je vais connaître cette victoire dans ma vie. Amen. Merci Seigneur parce que tu es bon. Tu es juste et bon, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que tu ne nous as pas sauvés pour que nous connaissions la misère dans notre vie. Mais, Seigneur, tu nous as donné des habits neufs, les habits de justice. Et, Seigneur, souvent, nous prenons d'autres habits. Tu nous rencontres avec des habits qui ne sont pas ceux que tu nous as donnés. Et Seigneur, ce matin, que tu puisses donner une foi parfaite à chacun d'entre nous. Que tu puisses nous donner un esprit de victoire, Seigneur. Ton esprit est un esprit de victoire. Seigneur, que tu puisses vraiment ce matin, que ceux qui sont dans la détresse ce matin puissent sentir que tu as posé ta main sur ces choses qui les marquent aujourd'hui. Et tu veux que nous puissions grandir en toi. Seigneur, donne la victoire dans les vies ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.